Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce journal d'ONU Info. Au menu, l'ONU s'alarme de l'aggravation de la crise humanitaire au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Le Conseil de sécurité discute aujourd'hui du rôle des processus de réconciliation dans le maintien de la paix et de la sécurité. L'envoyé de l'ONU en République démocratique du Congo estime que la situation reste fragile dans l'est du pays après une visite dans cette région. Et en dossier, une responsable de la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, plaide pour la transformation économique structurelle des pays les moins avancés. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies est inquiet de l'aggravation de la crise humanitaire dans la région du Sahel central qui englobe le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette dégradation est alimentée par de violents affrontements entre groupes armés, les déplacements de populations, la faim et la pauvreté généralisée. Le porte-parole du PAM à Genève, Hervé Vérocel, décrit la situation.
Dans cette région, 20 millions de personnes vivent dans des zones touchées par des conflits. Des centaines de milliers de personnes ont quitté leur domicile pour chercher la sécurité. On parle de 860 000 personnes qui ont déjà quitté leur habitation pour trouver cette sécurité. Il y a bien sûr une insécurité alimentaire croissante et importante. Dans la région, plus de 2,4 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire et nutritionnelle urgente, c'est-à-dire pas uniquement une aide alimentaire, mais une aide urgente, et ce, dans les trois pays que nous avons cités, donc le Burkina, le Mali et le Niger. Et c'est pour ça que nous tirons la signal d'alarme au Programme alimentaire mondial de l'ONU aujourd'hui, en disant que nous ne croyons pas que le monde réalise l'ampleur de la situation dans ces trois pays et surtout au Burkina Faso. Et c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'avec l'ensemble des agences de l'ONU, dont le Programme alimentaire mondial, la population et les pays doivent supporter cette réponse urgente, ce support aux différents gouvernements. Il y a bien sûr une réponse à donner au niveau humanitaire et donc les problèmes alimentaires sont bien sûr les premiers problèmes dont nous parlons. Pensez à ces personnes qui quittent chez eux, qui quittent tout ce qu'ils ont pour aller là où ils croient trouver plus de sécurité et là où ils croient trouver bien sûr de la nourriture et du travail.
Des processus de réconciliation réussis contribuent à prévenir la résurgence des conflits. C'est ce qu'a souligné aujourd'hui le secrétaire général de l'ONU lors d'un débat du Conseil de sécurité sur le rôle des processus de réconciliation dans le maintien de la paix et de la sécurité. Antonio Guterres a rappelé que promouvoir la réconciliation et mettre fin au cycle de l'impunité font partie intégrante du travail des Nations Unies.
Dans de nombreux pays à travers le monde, l'ONU s'emploie à intégrer des programmes de réconciliation dans les activités de rétablissement et de consolidation de la paix. Nos médiateurs et envoyés insistent sur les dispositions concrètes sur la nécessité du dialogue, du renforcement de la confiance et de la réconciliation dans les accords de paix. Nous nous sommes également efforcés d'inclure dans les accords conclus grâce à la médiation des organisations régionales, y compris en République centrafricaine et au Soudan du Sud, des dispositions devant permettre d'adresser les séquelles du passé. Dans ce contexte, je salue la nouvelle politique de justice transitionnelle de l'Union africaine, un cadre qui tient compte de la complexité de la violence de masse tout en respectant les traditions locales de réconciliation et de justice. Nous avons toujours souligné l'importance de la justice transitionnelle, notamment en Colombie, mais également ailleurs. Nous fournissons également un appui technique aux processus nationaux qui contribuent à l'apaisement collectif, par exemple en Tunisie et au Yémen, où nous offrons notre expertise afin de faciliter le développement des dialogues nationaux.
La situation socio-sécuritaire reste encore fragile en dépit de quelques avancées observées à l'est de la République démocratique du Congo, dans les territoires de Rutshuru, Walikale et Masisi. C'est le constat qu'a fait hier l'envoyé de l'ONU dans ce pays suite à sa visite dans ces zones affectées par des affrontements armés. Léla Zerougui cherchait notamment à mieux comprendre les dynamiques profondes qui opèrent dans la région afin d'apporter une réponse plus efficace. Écoutez ses observations au micro de Gabriel Wamenia de Radio Okapi.
Tout ça m'a permis d'abord de voir la souffrance des populations isolées. Pinga, Nyanzale, Kichanga, c'est des endroits qui ne sont pas accessibles, il n'y a pas de route. La vulnérabilité de cette population. Mais j'ai vu aussi le travail qui est fait, qui permet à ces populations de faire face et de pouvoir compter sur le peu qu'on peut faire. Par exemple, je connaissais Pinga et je suis revenue après des années et j'ai vu que les gens parlaient de développement. Parler d'opportunités qui manquaient. Nous voulons plus de militaires congolais, nous voulons plus de justice, nous voulons plus de police. Et ça, pour moi, c'est un signe positif, malgré la vulnérabilité et la fragilité. J'ai vu le travail qui est fait par le programme de stabilisation et des communautés qui me disent « on ne se parlait pas, on était en guerre l'un avec l'autre. Et maintenant, nous nous parlons. Et c'était des communautés Nyanga, des communautés Hyundai, qui ont pu voir leur Mwami alors qu'ils ne l'ont pas vu depuis 30 ans. Donc tout ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan, c'est clair. Et on n'a pas cette prétention. Le mieux pour nous, c'est de renforcer les capacités nationales, créer des opportunités pour que la population croie dans l'avenir de son pays.
Les pays les moins avancés devraient veiller à ce que les financements extérieurs soient dédiés aux priorités de leur développement national. C'est ce que conclut un nouveau rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED. Au micro d'Alpha Diallo à Genève, Isabelle Durand, secrétaire générale adjointe de la CNUSED, plaide pour une transformation économique structurelle des pays les moins avancés.
Ce qui est mis en évidence dans ce rapport, c'est quels sont aujourd'hui à la fois les montants qui sont consacrés à l'aide au développement et la manière dont ils deviennent de plus en plus complexes, compliqués, difficiles à gérer, en particulier pour les gouvernements des pays les moins avancés, et qui du coup sont un peu les témoins ou les spectateurs de quelque chose qui est décidé ailleurs. Et donc nous appelons dans ce rapport à la fois les pays les moins avancés d'être eux-mêmes ceux qui pilotent la mise en œuvre, et du côté des pays donateurs, d'être ceux qui tiennent compte du besoin, non seulement de faire du social ou de la lutte contre la pauvreté, ce qui est évidemment prioritaire, mais de le faire au travers du soutien à un vrai changement structurel de l'économie de ces pays, pour leur permettre d'être à même, à terme, de pouvoir porter eux-mêmes les politiques qu'ils décident.
Quand vous dites de faire un vrai changement par rapport aux priorités de développement, et c'est-à-dire que les filets de lutte contre la pauvreté, ce n'est plus une priorité pour la CNUSED, c'est qu'il faut miser sur l'infrastructure, les industries, sources de revenus.
C'est-à-dire qu'on fera du social aussi au travers du changement structurel. On peut aider mieux un pays, par exemple, à collecter des impôts, à avoir des investissements extérieurs, à créer des emplois et de l'activité. Et c'est aussi une façon de faire du social. Et donc, ce n'est pas le social contre les capacités productives, mais c'est les capacités productives pour faire du social. Ce sont les deux. Simplement, on a parfois le sentiment que dans l'aide au développement, il est plus facile pour un pays donateur de défendre une politique qui aide sur le social qu'une politique qui transforme l'économie d'un pays. Pourtant, transformer l'économie d'un pays, c'est aussi faire du social.
Et quand le rapport montre que 45% de l'aide totale est destinée à des activités sociales, ça nous enseigne quoi? Ça nous dit quoi par rapport à la politique de développement de ces pays?
Mais ça nous dit qu'on devrait inverser la proportion et permettre de mettre l'accent sur le changement profond du pays, dans sa manière par exemple de devoir rembourser sa dette, ça n'a l'air de rien, mais comment voulez-vous faire des politiques sociales si vous êtes endetté et si votre dette explose? Comment voulez-vous faire des politiques de réduction de la pauvreté si par ailleurs vous n'avez aucune infrastructure? Comment voulez-vous développer de l'e-commerce si vous n'avez pas de connexion à Internet, etc., etc. Et donc le travail structurel est impératif. Ce n'est pas contre le social. Simplement, ce rapport établit des chiffres et essaye de voir avec lucidité où sont les flux financiers de l'aide. Et il identifie ces 45%. Mais nous pensons que c'est trop. C'est trop au sens où la balance entre les choses structurelles et de long terme et l'aide sociale, qui est extrêmement importante, mais qui, elle, doit un jour s'arrêter.
Quelles sont vos recommandations aux ONG, aux fondations, aux philanthropes qui misent beaucoup sur le social dans ces pays en développement?
Ils ont raison. Je dis simplement que l'ensemble de ces acteurs, et on vise plutôt les États donateurs que les fondations ou autres, mais les fondations et autres devraient aussi développer une approche plus systémique, c'est-à-dire une approche où le social est une part des éléments du développement. Et si on ne soigne pas toutes les parties du développement, si on ne s'intéresse pas par exemple au changement climatique, qui n'a à la limite rien à voir avec le social, et pourtant les effets du changement climatique sur les sécheresses, les inondations, et donc la mobilisation de ressources pour corriger ces problèmes, la sécurité alimentaire et tout ce qui en découle, s'intéresser au changement climatique, c'est aussi faire du social. Et donc je pense que l'approche plus systémique de l'ensemble des causes qui font qu'un pays est en difficulté pour pouvoir honorer la dignité sociale de chacun de ses habitants, les causes sont aussi importantes que les effets.
On voit que le service de la dette est passé de 146 milliards à 313 milliards entre 2007 et 2017. Y a-t-il une explication? Y a-t-il un pays qui aide plus, fait plus de crédit à ces pays, ou bien une autre explication de la CNUSED par rapport à cette augmentation vertigineuse de la dette?
Les choses sont multiples parce qu'on ne peut pas mettre tous les pays moins avancés dans le même panier, si je peux dire. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que l'ensemble de ces pays sont tous exposés à une augmentation de leur dette, et une des raisons que nous y voyons, c'est le fait qu'on travaille plus par prêt, en particulier dans la coopération Sud-Sud, et en travaillant par prêt, évidemment, que quand on prête de l'argent, il y a des taux d'intérêt et donc il y a évidemment un risque d'endettement plus grand. C'est un élément. L'autre élément, c'est l'insuffisance aussi d'investissement. Les investissements étrangers sont en diminution, y compris et surtout dans les pays les moins avancés, parce que ça apparaît comme des endroits pas intéressants pour l'investisseur. Et donc, pour ces raisons, on a un emballement de la dette qui expose ces pays à de potentielles graves conséquences.
Voilà la fin de ce journal d'ONU Info. Retrouvez sur notre page internet et nos comptes Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.